ou entre amis, le site d'Exposité propose des activités toute la journée et pour tous les âges pendant le congé scolaire. Outre les activités sur le site d'Exposité, demain 4 mars aura lieu un concours de château de neige au domaine de Mézeray, au plus grand plaisir des enfants, et dimanche 5 mars, ce sera une partie de sucre sur la base de plein air de Sainte-Foy. On peut consulter la programmation complète de la semaine de relâche sur le site de la ville, ajoutant que de nombreuses autres activités ont lieu dans les musées, centres d'interprétation, bibliothèques et autres endroits dans la grande région de Québec, tout au long de la semaine de relâche. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et de CKIAFM.org.
Simplicité. Nous sommes conscients d'avoir un animal en nous qui se réveille à proportion que notre plus haute nature s'endort. Cet animal est reptilien et sensuel et peut-être est-il impossible de s'en défaire totalement. Il est comme les vers qui habitent notre corps même lorsque nous sommes vivants et en parfaite santé. Nous pouvons sans doute nous éloigner de lui, mais nous ne pouvons pas modifier sa nature. Je crains qu'il jouisse d'une certaine santé bien à lui. C'est peut-être une bonne chose, mais ce n'est pas pur. L'autre jour, j'ai ramassé une mâchoire inférieure de sanglier avec ses dents et défenses blanches et robustes qui me firent penser qu'il existait une santé et une vigueur animale distinctes de la santé et la vigueur spirituelle. Cette créature avait vécu avec succès par d'autres moyens que la tempérance et la pureté. Ce qui distingue les hommes des bêtes sauvages d'Imensius est une chose minuscule. La foule du commun la perd très vite. Les hommes supérieurs la préservent soigneusement. Qui sait quel genre de vie en serait résulté si nous avions atteint la pureté? Si je connaissais un homme suffisamment sage pour pouvoir m'enseigner la pureté, j'irais immédiatement le consulter. Le Veda affirme que la maîtrise de nos passions et de nos sens corporels, ainsi que la pratique de bonnes actions, sont indispensables à l'approximation mentale que nous pouvons former de Dieu. Pourtant, l'esprit peut ponctuellement imprégner et contrôler chaque membre et chaque fonction de notre corps et transmuter en pureté et dévotion ce qui relève fondamentalement de la sensualité la plus grossière. L'énergie motrice qui, lorsque nous sommes dissolus, se dissipe et nous rend impurs, nous vivifie et nous inspire lorsque nous faisons preuve de continence. La chasteté est la fleur épanouie de l'homme, et ce que nous appelons génie, héroïsme, sainteté et autres choses même, du même genre ne sont que les divers fruits qui en résultent. Lorsque le canal de la pureté est ouvert, l'homme coule immédiatement vers Dieu. Tour à tour, notre pureté nous élève et notre impureté nous rabaisse. Il est béni, l'homme qui peut être sûr que l'animal en lui s'éteint jour après jour et que le divin s'installe. Peut-être n'existe-t-il aucune personne dénuée de tout motif de honte du fait de la nature bestiale inférieure à laquelle il est lié. Je crains que nous ne soyons au mieux que des dieux ou demi-dieux de la vérité des faunes et des satyres, créatures d'appétit, alliage de divin et de bestial, et que, dans une certaine mesure, notre vie elle-même soit notre disgrâce.
De nourrir la pensée, je veux chemin nouveau à défricher, je veux des lunes d'été à raconter, je veux en nous-mêmes de nouveaux sols à irriguer, j'ai devant moi la vie. La vie, j'ai devant moi la vie pour agir. Je veux des portes qui s'ouvrent à l'autre. Je veux des terres d'accueil pour l'exilé. Je veux des matins. Liberté, couleur et rose. Je veux qu'on fonde des broussailles, des chants d'amour qui s'élèvent. Je veux des terres cultivables pour l'espoir. Je veux des chevauchées de rêves dans la nuit noire. Je veux des navires de paix dans nos mémoires.
Bienvenue à Toute Simplicité. C'était Richard Séguin, Devant moi la vie de l'album Retour à Walden, comme à l'habitude. Avant ça, je vous ai lu un extrait aussi, comme à l'habitude, de Walden, de Henri-David Thoreau, et qui parle de notre double nature, une nature qui pourrait dire inférieure, il disait animale, pas nécessairement mauvais, mais comme il dit, ça nous éloigne d'une certaine pureté, puis une nature plus évoluée. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, justement, parce que Jacques Sénécal va être avec nous pour faire la suite on peut dire, conclure là, les extraits que je vous ai lus du livre de Frédéric Lenoir, Cultiver le désir, qui est inspiré de Spinoza et la vision ou la perspective du désir selon Spinoza. Alors, voilà, c'est de ça que l'émission va traiter aujourd'hui avec Jacques Sénécal tout à l'heure. Tout d'abord, quelques petites annonces et petits survols rapides de l'actualité. Je vous rappelle que c'est en fin de semaine la fête des semences en présentiel, le nouveau terme qu'on utilise maintenant depuis la COVID. En présentiel, ça me semble que ça fait plusieurs années qu'on ne l'a pas eu. En tout cas, on a la fête des semences. Et moi, la fête des semences, c'est comme un deuxième jalon vers le printemps. Je vous en avais parlé le mois dernier. Le premier jalon, c'est la chandeleur le 2 février. Et à chaque année, en tout cas, sauf quand on a eu la pandémie, on a au début mars le deuxième jalon pour moi, qui est la fête des semences, qui nous met à réfléchir sur notre jardin, acheter nos graines et penser jardinage. Donc, je trouve que c'est une belle fête, quelque chose, une belle activité. Alors, c'est à l'Université Laval en fin de semaine, demain et dimanche. Ensuite, il va y avoir aussi en fin de semaine le salon Manger Santé et Vivre Vert. Ça, c'est au Centre des congrès. Et ça aussi, en fin de semaine, samedi et dimanche. Et c'est des kiosques, c'est un salon avec des conférences, etc. Il y a toute une programmation. Ça aussi, événement intéressant en fin de semaine. Donc, on dégèle, là, on sent que le printemps s'en vient. Dans les actualités, j'ai un article du Devoir que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui. C'est un peu comme... un article que je dirais simplicitaire, le titre de l'article, c'est « Gaz pour l'hiver, l'Europe devrait s'en tirer ». Alors, c'est il y a eu de la chance un peu là-dedans, mais ce qui est quand même fascinant, c'est que avec la guerre en Ukraine, bien, il y a eu une coupure d'approvisionnement en gaz pour l'Europe, puis on se demandait qu'est-ce qui se passerait, comment l'Europe passait au travers, parce que une bonne partie de l'approvisionnement du gaz en Europe venait de la Russie. Et finalement, il semblerait qu'on va s'en tirer. C'était un article d'Yvan Clich dans Le Devoir d'aujourd'hui, page A7. Je vous en lis quelques extraits. Alors, il dit « Il semble bien que Vladimir Poutine ait perdu son pari, l'Europe et ses citoyens qu'il espérait voir grelotter dans leurs appartements mal chauffés. » N'envahiront pas les rues pour réclamer que les gouvernements renouent les liens énergétiques avec Moscou. On dit pourtant, quelques mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, en février 2022, les analystes étaient plutôt pessimistes quant à la capacité de l'Europe de se priver du gaz de la Russie, dont elle dépendait pour 40% de ses approvisionnements annuels. Si les Européens ont pu passer une partie de l'hiver sans trop d'inconfort, ils doivent en remercier Dame Nature. D'une part, la température a joué son rôle. Il y a eu un peu de chance, comme je vous disais. L'Europe a eu un hiver très clément. C'est important car l'Europe utilise 3 fois plus de gaz en hiver que durant l'été. Il disait qu'en Allemagne, par exemple, on a eu des températures de 19 degrés, ce qui est à Dresden, qui était un record. D'autre part, l'Europe a reçu l'aide indirecte mais précieuse de la COVID-19. Les mesures strictes de confinement implantées par Pékin ont réduit de manière marquée nos besoins en énergie. Pour la première fois en 4 décennies, la consommation chinoise en gaz a reculé en 2022. La Chine a donc été bien moins présente que d'habitude sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié, permettant ainsi à l'Europe de remplir ses stocks pour l'hiver, notamment grâce à l'apport des États-Unis, dont les exportations de gaz vers le vieux continent ont augmenté de près de 140% en 2022. Et Aussi, il y a eu des pratiques de... Tout le monde a fait un effort pour réduire sa consommation. C'est de là que je vous dis qu'il y a un lien avec la simplicité volontaire. Ça démontre que quand on veut vraiment, on peut réduire nos émissions. Et il y a toutes sortes de pratiques, entre autres, au niveau technologique, il y a eu des thermopompes qui se sont vendues en vitesse grand V en Europe. Beaucoup de thermopompes ont été achetées. Les gens ont réduit leur consommation. Bref, c'est un article que je vous recommande là, dans le Devoir d'hier, là, le Devoir d'aujourd'hui, excusez, gaz pour l'hiver, l'Europe devrait s'en tirer. Et dernière petite chose, je vous rappelle le dernier Philosophie Magazine, celui de décembre, est toujours en kiosque. Le prochain numéro devrait arriver en kiosque bientôt. On les a toujours en retard. Là, c'est le numéro de décembre et janvier 2023. Et il y a deux articles intéressants, deux bons articles. Un sur Pythagore. Alors, si vous vous intéressez à Pythagore, Pythagore fait partie des pré-socratiques. Et philosophe vraiment intéressant. Alors, il y a un article bien fait sur Pythagore. Puis aussi, un autre article sur Schopenhauer avec un petit... Il y a toujours dans le milieu du Philosophie Magazine un petit livret. Et c'est sur Schopenhauer aussi. Alors, pour ceux qui s'intéressent, veulent découvrir ou connaître Schopenhauer, c'est dans le numéro de décembre-janvier 2023 de Philosophie Magazine, qui est toujours en kiosque d'ailleurs. Alors voilà. Est-ce que, Jacques, tu es avec nous?
Oui, je suis là.
Bon.
Je suis là, Jacques.
Est-ce que tu... alors, on commence... veux-tu qu'on commence tout de suite notre présentation sur Spinoza?
Mais pourquoi pas?
Alors,
pourquoi pas? Moi, je suis prêt.
Allons-y.
Je suis prêt. D'ailleurs, bon, aujourd'hui...
Oui. Ben, d'ailleurs,
oui, aujourd'hui,
je disais qu'on avait en introduction là, le texte de Thoreau, c'était comme une mise en situation là, des deux natures qu'on a. Et c'est un peu ça que Spinoza voulait démontrer là, par sa perspective du désir.
Alors aujourd'hui, donc, je vais parler de Spinoza, mais plus particulièrement de sa manière d'aborder le désir humain. Parce que le désir chez Spinoza, ça couvre beaucoup de choses. Ça couvre l'identité, notre identité, notre propre identité, l'action et la passion, les valeurs, la joie et la tristesse. Quasiment presque tous les aspects de la vie sont touchés par sa manière de voir, de concevoir le désir. Le désir chez Spinoza, en fait, il nous oblige à nous poser la question, à se poser la question, qui suis-je? Parce qu'on pourrait dire que, en gros, Spinoza nous dit ceci, dis-moi ce que tu désires, je te dirai qui tu es. Alors, le désir, c'est mon essence, c'est ma définition. Le désir chez Spinoza, contrairement aux autres philosophes, comme Platon, Aristote et plusieurs autres, le désir n'est pas un manque, là. Pour lui, le désir, je ne désire pas que ce qui me manque. Le désir, c'est d'abord une puissance d'agir, une volonté, une force. Et cette force-là, bien, définit l'être humain, définit l'homme. L'homme est un désir conscient, voilà sa définition, plus précisément. C'est très clair, l'homme est un désir conscient. Alors, le désir est donc l'essence même de l'homme. Vivre, pour Spinoza, c'est désirer vivre, c'est vouloir vivre, s'efforcer de vivre, augmenter ma puissance de vie malgré les obstacles, les pièges, les opportunités qui se présentent à chaque jour. Alors, je dois donc augmenter constamment ma puissance de vie. Malgré le fait, bien entendu, Spinoza le sait, que nous sommes tous des mortels, notre désir, justement, est celui d'une connaissance, d'une meilleure connaissance, d'un désir de vérité. La raison, par exemple, pour Spinoza, c'est un désir de cohérence, un désir de logique, un désir de la mesure, du juste milieu. La morale, c'est un désir de vie bonne, de bonheur, de bonne entente. Alors, le désir se retrouve partout. C'est pourquoi il y a raison de dire que le désir, dans le fond, c'est l'essence même de l'homme. Désirer, ce n'est pas autre chose qu'être soi-même. C'est vouloir ce qu'on est déjà. Mais, justement, vouloir ce qu'on est déjà, mais qui suis-je? Voilà la question. C'est pourquoi la philosophie de Spinoza est toujours complexe. Tout se tient. Si le désir, c'est ce que je suis, qui suis-je? Il ne suffit pas d'être soi-même pour être ce qu'on est. Notre identité, c'est-à-dire la puissance de nos efforts, dépend de nos rencontres, de nos alliances, les convenances, les apprentissages, les multiples déterminismes extérieurs, plus ou moins aléatoires et imprévisibles. Alors, être soi-même, donc, ne va pas de soi. Ça implique un effort, ça implique un désir, voyez-vous, un effort. Et d'ailleurs, Spinoza va utiliser souvent le mot latin « conatus ». Conatus, qui est une sorte de force. En français, on a le mot conatif ou le mot connexion, qui veut dire force, impulsion. Alors, le conatus, c'est un effort, c'est une persévérance, c'est une ténacité. Cet effort, c'est ce que nous sommes, justement. Un mouvement vers son propre épanouissement, un plein déploiement de ses propres potentialités, de ses talents, de ses pouvoirs. Alors, qu'est-ce que le conatus chez Spinoza? Dans le fond, c'est une force de nature. Et aujourd'hui, les hommes de science diraient, cette force de nature, on l'appelle l'énergie. Chez les scientifiques, donc, on a une sorte de conatus, une sorte de force qui s'appelle l'énergie. Et ces forces-là, ces pulsions, les instincts, les tropismes qu'on retrouve dans la nature, que ce soit dans la nature végétale ou la nature animale, ben on rencontre aussi chez l'être humain sous forme de désir. Il y a des forces végétales, il y a des forces animales, il y a des forces humaines qui s'appellent le désir humain. Et donc, de l'ordre de la nature, c'est une force naturelle, selon Spinoza. Alors, nous sommes donc tout un chacun la force de nos propres désirs. Le désir n'est pas que provoqué par un manque, comme on le pense habituellement. Chez Spinoza, le désir, c'est une action, c'est penser, c'est agir, c'est se réaliser en tant que pensée, en tant que conscience. Et aussi, bien entendu, très important, c'est arriver à se connaître adéquatement. Se connaître adéquatement, puis connaître les choses adéquatement. Et se connaître adéquatement, ça veut dire se connaître selon notre passé, selon notre histoire, selon nos apprentissages. Au cours de notre vie, on n'a pas tous été façonnés de la même manière. Alors, le désir va donc nous pousser à agir différemment selon nos rencontres, selon les personnes qu'on a rencontrées, selon nos apprentissages. Alors, ça, c'est une introduction, Jacques. Alors, tu peux voir comment est-ce que le désir est important chez Spinoza. Maintenant, ce qu'on pourrait voir, c'est comment ce désir-là joue sur les différentes affections, ce qui nous affecte. Au cours de notre vie, l'être humain est affecté de toutes sortes de manières. Et le désir aussi, il est affecté. En fait, chez Spinoza, il y a trois passions. Il y a la joie, la tristesse et le désir. Et le désir, il est dans la joie comme dans la tristesse. En tout cas, on peut soupeser le désir dans la joie comme on peut soupeser le désir dans la tristesse. Et ça, c'est très important. Alors, c'est pourquoi je conseillerais, Jacques, qu'on fasse une petite pause musicale avant d'entreprendre ce chapitre-là sur la joie et la tristesse chez Spinoza, parce que c'est un chapitre très, très important.
Oui, parfait. Puis aussi, au retour, là, je vais te poser une question là, avant qu'on poursuive.
D'accord? Certainement.
OK. Thank you.
instrument fétiche, des bas-fonds, des pas, libère mon corps, refuse qu'il triche par chacun de tes souffles, fais sortir du gouffre ce que je camoufle, tout ce dont je souffre. Accordéoniste, tu te laisses surprendre, tu suis bien ma piste, nous allons nous entendre. Tu crées en moi l'irruption de ce qui n'a pas de nom, pied de nez à l'affront, je te baise le front. Instrument si riche, éventail sonore, envers du décor, tu n'as rien de postiche, avant que je m'essouffle, fais sortir du gouffre ce que je pantoufle, tout ce dont je souffre. Accordéoniste, tu te laisses surprendre, tu suis bien ma piste, nous allons nous entendre. Tu crées en moi l'irruption de ce qui n'a pas de nom, pied de nez à l'affront, je te baise le front. Instrument des friches, encore et encore, que je retrouve le nord, je veux que tu m'entiches, ne prends pas de moufle, fais sortir du gouffre ce que j'en mitoufle, tout ce dont je souffre. Accordéoniste, tu te laisses surprendre, tu suis bien ma piste, nous allons nous entendre. Tu crées en moi l'irruption de ce qui n'a pas de nom, pied de nez à la front, je te baise le front. Tu crées en moi l'irruption de ce qui n'a pas de nom, pied de nez à la front, je te baise le front.
Alors, c'était Jean-Marc Aurel. La pièce s'appelle « Accordéoniste » de son album « Laissez voyager nos chansons ». Alors, c'est ça, Jacques, j'ai une question pour toi, c'est que, ben, comme je t'ai dit, on a parlé du livre de Frédéric Lenoir « Cultiver le désir » depuis le début du mois de février. Et Lenoir nous fait remarquer que les Grecs se méfiaient du désir. Notamment Platon disait qu'il fallait se méfier de tout ça. On avait une nature, comme le texte de Thoreau dit, on a comme une nature qui est plus animale, et le désir qui d'ailleurs aussi est souvent utilisé par les publicitaires pour nous manipuler à cause justement de cette nature-là. C'est ça, les même, je disais, quand je disais le texte de Taureau, les grands textes religieux comme les Védas, disaient tous qu'il fallait se méfier du désir, qu'il fallait contrôler nos désirs, qu'on était manipulés par nos désirs. Bref, ma question, c'est comment Spinoza ferait pour réconcilier les grandes traditions par rapport à sa perspective sur le désir?
Bien, ce qui est très important chez Spinoza, c'est la connaissance des causes qui nous affectent. Alors, contrôler ses désirs, dans le fond, la meilleure manière, c'est d'en connaître les causes. Quand un désir nous trouble, c'est parce que il n'a pas été parfaitement circonscrit par notre connaissance. Alors, la maîtrise rationnelle des passions, lui appelle ça la maîtrise des passions, parce que le désir, comme la joie puis comme la tristesse, ce sont des passions, mais qui peuvent devenir des actions. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard. Mais en gros, pour répondre à ta question, le contrôle des passions ou le contrôle des désirs ne peut pas être une répression comme chez les ascètes, par exemple. Spinoza n'aime pas le terme répression parce que la répression va nécessairement générer de la tristesse. C'est pourquoi je te disais tantôt qu'on va parler de la joie et de la tristesse. Là, je commence un peu par la fin. La répression, dans le fond, ça génère la tristesse. Si je contrôle d'une manière répressive mes désirs, mais ça va générer de la tristesse en moi. Or, les affections négatives qui découlent de la tristesse ne peuvent pas être des sentiments actifs, car on ne peut pas désirer consciemment la diminution de notre puissance d'être, parce que la tristesse, c'est une diminution de notre puissance d'être, c'est une diminution de notre désir. Le désir ne peut pas désirer sa propre frustration. Alors, c'est pourquoi le contrôle des passions, le contrôle des émotions, la maîtrise des émotions, dans le fond, n'est jamais, chez Spinoza, une répression ou un contrôle répressif, mais c'est plutôt une connaissance. C'est connaître ou comprendre ce qui nous bouleverse. Dans le fond, quand on comprend bien ce qui nous bouleverse, on cesse d'être bouleversé. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire une distinction entre l'émotion et le sentiment. L'émotion, c'est passif, c'est un trouble, ça nous trouble, ça nous bouleverse. Alors que quand on comprend bien l'émotion, quand on comprend bien les causes des émotions, quand on a une idée adéquate, ça c'est un terme que Spinoza utilise souvent, quand on a une idée adéquate de notre émotion, de notre passion, de notre trouble, mais ça se transforme en une sorte de sentiment. Autrement dit, le sentiment, c'est une émotion bien comprise. Alors, à ce moment-là, le sentiment ne nous trouble plus. Et ce n'est plus, il peut même devenir une action. Ce sentiment-là peut devenir une source d'activité chez moi, plutôt qu'une passion. Alors, je vous donne un exemple. La joie et le désir, s'ils ne sont que des passions, ça va nous rendre tristes. S'ils ne sont que des passions, si je ne les comprends pas, si je ne les saisis pas, ils vont me rendre triste. Alors, c'est des états de passivité par rapport à des causes extérieures et quand je les comprends, mais ça peut toujours devenir une source d'enrichissement. Quand un être humain, par exemple, se forme une connaissance claire et distincte de ses états de passivité, de ses passions, de ses émotions, mais à proprement parler, ces passions-là deviennent des actions, des sources de joie. Je vais donner un exemple. Quand j'enseigne, bon, j'éprouve une joie active parce que je formule d'une manière simple et d'une manière consciente un tas de choses que je communique à mes élèves. Alors, j'éprouve donc une joie active. Je suis en pleine action. Mais en même temps que j'éprouve cette joie active, je peux aussi éprouver une joie passive à avoir, par exemple, à sentir la belle écoute du groupe. Ou encore aujourd'hui, quand je parle au téléphone, c'est une joie active. Parce que je parle, je formule, je communique avec un auditoire. Mais j'ai aussi une joie passive parce que j'imagine que les auditeurs sont contents d'entendre mon discours sur Spinoza et sur le désir. Alors, c'est donc dire que une passion, une affection passive peut devenir un affect actif, source de joie, donc source d'augmentation de mon propre désir. Alors, c'est pourquoi, là, je commence un peu vers la fin, c'est pourquoi j'aurais aimé ça vous parler de la joie, mais je vais en parler tout de suite, de la joie et de la tristesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la joie, dans le fond? La joie, c'est quand j'arrive à rencontrer des choses qui me conviennent. Par exemple, quand je j'ai de la bonne nourriture, mais cette bonne nourriture-là me détermine à me réaliser, à former en moi une totalité supérieure, un corps en santé. C'est de la joie quand je prends une bonne nourriture. Je suis heureux, je suis joyeux. Mais quand ça ne me convient pas, au contraire, si je mange un élément nocif, par exemple, que je digère mal, mais ça compromet ma cohésion, ça tend à me diviser en sous-ensembles, mais à la limite, ça peut me détruire. C'est une sorte d'empoisonnement. Alors, c'est la tristesse. Mais ce que je dis à propos des aliments, je peux le dire aussi à propos des personnes qu'on rencontre. Il y a des personnes qu'on rencontre qui nous décomposent, qui nous rendent tristes, qui diminuent notre puissance d'agir. Il y a d'autres personnes, au contraire, qui suscitent un amour, qui suscitent justement une joie. Et l'amour, qu'est-ce que c'est pour Spinoza? Mais c'est une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure, c'est-à-dire qui accompagne l'idée, juste le fait de penser à une certaine personne, mais j'éprouve une joie, c'est ça l'amour. Alors, c'est donc dire que dans la joie comme dans la tristesse, mais le désir est toujours en action. Alors, je répète donc, composition, décomposition, bonne composition, mauvaise combinaison, voilà un peu le jeu qu'il y a entre la joie et la tristesse. Or, l'être humain, lui, ne désire qu'une chose, qui est de persévérer dans son être, améliorer son équilibre, améliorer son homéostasie, s'actualiser. Et il y a donc deux sortes d'être humain, dans le fond, selon Spinoza. Il y a l'homme, l'être humain qui désire se connaître. Ça, c'est un cas de figure. Puis l'autre cas de figure, c'est l'être humain qui s'en fout totalement de sa connaissance de lui-même, qui ignore sa nature. Alors, l'homme qui désire connaître sa nature, ben, va tenter de se réaliser lui-même. Il va donc utiliser la compréhension autant que possible pour être heureux. Alors, chez Spinoza, le corps et l'esprit, ce sont des réalités qui sont intimement liées, qui sont intimement parallèles, pourrait-on dire, qui fonctionnent parallèlement. Alors, c'est pourquoi il n'y a pas une action spirituelle et une action corporelle. Toute action est à la fois corporelle et spirituelle. Par exemple, il nous dit, Spinoza, la compréhension, c'est l'action de l'esprit, et l'action, c'est la compréhension du corps. Alors, ça, arriver à saisir ces parties de nous-mêmes et saisir l'effort que nous faisons pour conserver notre être, mais ça ne se distingue pas de l'effort qui moi-même, finalement. Bref, nous sommes des efforts psychologiquement et physiologiquement. De plus, la raison, c'est un désir, mais ce désir-là n'est pas autre chose que moi-même. Ce désir-là, c'est le désir de s'actualiser au maximum. Dès lors, tendre à se développer soi-même, c'est tendre à développer sa raison en tant qu'elle peut avoir des idées adéquates, des idées claires et distinctes sur les choses et sur moi-même. C'est pourquoi Spinoza insiste beaucoup sur la connaissance. Et qu'est-ce qui se déduit de nos idées claires et distinctes, sinon d'autres idées claires et d'autres idées distinctes? Alors nous tendons toujours à comprendre et à comprendre toujours plus. Et c'est ce qui amène la joie de connaître. Le rôle de la raison, donc, n'est pas purement instrumental. La raison devient un guide. elle ne désire que s'actualiser au maximum. Et quand la raison veut s'actualiser au maximum, mais c'est nous, nous-mêmes qui nous actualisons au maximum. L'effort de comprendre, donc, n'est pas autre chose que le désir d'être le plus authentiquement. Et j'ajoute, les sciences, quelles qu'elles soient, vont nous servir à améliorer nos conditions d'existence, mais les sciences nous servent aussi à mieux nous connaître, par exemple la biologie, la neurologie, la génétique, la psychologie, la sociologie, et j'en passe. Alors c'est pourquoi les scientifiques d'aujourd'hui, par exemple, voient chez Spinoza un précurseur de toutes les sciences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient humaines. Parce que toutes les sciences, en fait, nous poussent à mieux nous connaître, à mieux connaître les causes de ce qui nous affecte. Et si donc le désir de l'individu humain, en tant que désir de connaître sa nature propre, est le fondement même de notre existence, c'est pourquoi le désir doit nous permettre de réaliser notre propre nature, de réaliser notre essence, de nous ouvrir à la joie d'être ce que nous sommes. La joie, donc, c'est ce qui résulte de la réalisation de notre propre nature. La joie résulte donc d'être soi-même. La joie, dans le fond, consiste à développer pleinement ses propres potentialités naturellement, un peu comme l'abeille va produire du miel naturellement, un peu comme l'araignée va tisser sa toile naturellement, l'être humain va pouvoir utiliser sa raison naturellement, parce que la raison fait partie de sa nature, c'est un de ses pouvoirs qui fait partie de son essence. Alors que d'autre part, l'être humain, lui, qui ignore sa nature, c'est le cas de la plupart d'entre nous, en fait, là. La personne qui, on ne naît pas raisonnable et sage, là. Il y a peu de gens qui ont comme objectif premier la réalisation de soi. La plupart des gens sont des ignorants d'eux-mêmes. Et bien entendu, ces ignorants-là se laissent agir par des causes extérieures qui sont multiples et variées. Elles peut-être naturelles, elles peut-être culturelles. Ce qu'ils font découle de leur désir, mais d'un désir modifié, d'un désir conditionné par des causes extérieures variées, issues du monde naturel comme du monde culturel. Ça peut être la famille, le passé, leur situation géographique, il y a plein d'humiliations. Prenons un cas extrême, ce que les Français appellent les SDF, les sans domicile fixe, ou nous autres, ce qu'on appelle les itinérants. Mais le désir des itinérants, ils existent, sont déterminés par des causes extérieures, et dans le fond, ils subissent ces causes-là sans comprendre. Ils subissent toutes sortes de passions qui viennent justement de son milieu, qui viennent de son passé, qui viennent des humiliations, qui viennent des dépendances, de son impuissance, des différentes séductions, des différentes drogues. Alors, dès lors, c'est au hasard des causes que cet homme-là éprouvera la joie et la tristesse. Il va peut-être éprouver des joies, il va peut-être éprouver des tristesses, mais il n'y aura aucun contrôle sur ses propres sentiments. Selon, il va rencontrer, éprouver la joie et la tristesse selon qu'il rencontrera ou non des causes favorables à son désir. Dans l'ignorance et dans la confusion, l'être humain ne tire de ce désir de connaître que des illusions, que des superstitions, que des croyances. Alors, l'homme qui ignore ce qu'il est et qui persiste dans cette ignorance aura tendance à vivre une vie de fiction, de distraction, de divertissement pour oublier sa tristesse. Laquelle tristesse, il ne faut pas l'oublier, est une diminution de sa puissance d'agir. Ce qui contribuera à réduire encore sa force d'exister. Autrement dit, plus tu es triste, moins tu es puissant, plus tu déprimes, puis plus tu vas devenir dépendant, puis plus tu vas t'attrister. Donc, il y a plusieurs personnes qui vivent dans ces conditions-là et qui ne vivent que par procuration, dépendamment des autres. Ils deviennent parasites des moyens de toutes sortes de moyens d'étourderie et de dissipation. La joie existe quand une cause extérieure favorise notre désir et augmente notre puissance de connaître et notre puissance d'agir. Alors, c'est un peu ce que je voulais dire en partant par en parlant de ta question. Est-ce que l'être humain, selon Spinoza, est-ce que l'être humain doit contrôler ses désirs? Il doit les contrôler, mais par la connaissance des causes de ces désirs-là, par la connaissance des causes de ce qu'il subit, de ce qu'on appelle les passions, et par la connaissance aussi des affects actifs, des sources de joie, des actions. Alors, la connaissance chez Spinoza, c'est une valeur clé, une valeur d'une grande, grande importance. Et d'ailleurs, on dit que Spinoza est le philosophe de la joie, mais c'est aussi le philosophe de la connaissance. L'éthique, son livre majeur, porte essentiellement sur le bonheur, la joie, mais en même temps, son livre qui s'appelle l'éthique est un véritable traité de géométrie, pourrait-on dire. Il nous donne tous les moyens, tous les outils pour arriver à connaître correctement nos propres passions, nos désirs et les causes qui peuvent les déterminer. Et c'est pourquoi Spinoza est le philosophe, justement, qui va nous aider à nous libérer de nos fictions, de nos croyances, de nos illusions. Justement parce que la connaissance est pour lui une valeur clé, une valeur importante. Et d'ailleurs, le mot valeur, ça fait deux ou trois fois que je le dis, je vais devoir y revenir parce qu'encore là, Spinoza a beaucoup à nous dire là-dessus.
Bien, justement, il finit là-dessus, il conclut là-dessus. Là, on va prendre une petite pause musicale là, pour après ça, on va revenir pour conclure l'émission. Mais Frédéric Lenoir conclut là-dessus, il parle des valeurs. Il cite Spinoza, il dit, nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. Alors, c'est ça les valeurs.
C'est ça. On va en parler après la pause. C'est exactement ça ce que j'allais dire finalement. Frédéric Lenoir cite les bonnes choses de Spinoza.
En tout cas, je rappelle le titre du livre de Frédéric Lenoir, c'est « Cultiver le désir et vivre aux éclats », pour ceux que ça intéresse. Pour moi, c'est un livre sur la simplicité volontaire. Puis aussi, d'ailleurs, à la fin, il parle de... parce qu'il commence le livre en parlant de Platon, qui est des Grecs et traditionnels qui disaient, eux autres, ils se méfiaient du désir. Et puis là, ben, il apporte la nuance de Spinoza, mais à la fin, il dit, dans le fond, je pense que autant Platon que Spinoza ont raison. En tout cas, on pourra en discuter là. On va prendre une pause musicale, puis on va revenir pour conclure l'émission.
OK.
Ça serait une pause entre deux sonneries, quand le bruit se repose, un soupçon d'accalmie. Ça serait un silence au milieu du fracas, la minute d'absence où on ne répond pas. Un petit temps d'arrêt, s'il vous plaît, je crois qu'il me faudrait juste un peu de secret, juste un peu de secret. Faire un palier, rien qu'un petit palier, grappiller cet instant pour mettre innocemment, pour mettre impunément un peu de flou dans mon emploi du temps. Ça serait un mensonge entre deux vérités, une question qui plonge avant d'être posée. Ça serait une fable au milieu des discours, une fuite improbable, un ultime recours. Même si ça débise, oh please, il faudrait que je dise juste quelques mots. récemment pour m'être impunément un peu de flou dans mon emploi du temps. Serait un scaphandre au milieu des requins, quand la chair est si tendre et l'habit si mesquin. Ça serait une esquive à ce monde voyeur, la défense passive, armure du rêveur, sans beaucoup d'exigence. Je pense qu'il me faudra d'urgence, juste un peu de silence, juste un peu de silence. Faire un palier, grappiller cet instant pour m'être innocemment, pour m'être impunément un peu de flou dans mon emploi du temps. Faire un palier, rien qu'un petit palier, grappiller cet instant pour m'être innocemment, pour m'être du temps.
C'était Anne Sylvestre. La pièce se nomme Pause et c'est de l'album By Mélanco.
Bon, alors justement, je vais quand même en parler du désir et des valeurs, parce qu'il y a beaucoup de philosophies traditionnelles et encore dans nos mentalités, on pense, on croit que le monde est constitué d'êtres ou de réalités qui sont moralement hiérarchisées. On pense qu'il existe des choses qui valent plus que d'autres, comme s'il y avait une hiérarchie intrinsèque des valeurs. C'est ainsi, par exemple, qu'on pense que des choses qui sont bien en soi ou qui sont mal en soi, pour Spinoza, le monde n'est pas constitué d'êtres moralement hiérarchisés. Pour Spinoza, le bien n'est que le bon. L'erreur consiste à croire justement que la valeur est une propriété intrinsèque des choses et non en rapport avec notre désir. Une chose vaut, mais à condition qu'on la désire, il n'existe pas de valeur en soi ou de valeur absolue. Et pourtant, on est très, très, très penché, nous autres, on est conditionné, pour ainsi dire, à croire qu'il existe des valeurs en soi ou des valeurs absolues. Et c'est là que Spinoza nous dit, justement, dans son éthique, ce que tu citais tout à l'heure, quand tu parlais de Frédéric Lenoir, ce n'est pas parce qu'une chose est bonne en soi que nous la désirons, mais c'est parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Et cette relativité des valeurs s'illustre aussi avec une autre citation de Spinoza qui est tout aussi claire. Une seule et même chose peut être en même temps bonne et mauvaise et aussi indifférente. Par exemple, la musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'affligé, mais pour le sourd, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Alors, c'est donc dire que tout ce qui vaut ne vaut que par rapport au désir que j'en ai. Il y a des gens qui se foutent totalement de la beauté d'un coucher de soleil, alors que d'autres ne sont que transportés par la joie de la beauté du coucher de soleil, parce que c'est leur désir, dans le fond, de voir de la beauté. Il y en a d'autres pour qui la beauté, ça n'a pas d'importance. Alors, puis ce désir-là qu'on a, bien, il est aussi façonné par notre apprentissage, par notre éducation. Alors, c'est donc dire qu'on n'a pas les mêmes désirs selon qu'on a vécu il y a 50 ans, selon qu'on vit actuellement. Mes parents désiraient le paradis éternel à la fin de leur jour, alors que mes petits-enfants, ils désirent avoir un job. Surtout, c'est ça qui est important. Alors, c'est donc dire que nos désirs sont déterminables, sont façonnables, sont manipulables. Et c'est pourquoi je conclurai, pour être en phase avec, avec la simplicité volontaire, parce que Spinoza et plusieurs philosophes peuvent nous aider justement à être en phase avec la simplicité volontaire. Moi, je trouve que Spinoza vise juste en nous disant que le désir est fondamental, qu'il soit conscient ou inconscient, le désir est fondamental, parce que le désir, c'est aussi la raison. La raison est désir, donc le désir, autant que la raison, peut nous guider. Le désir peut nous guider. Et je cite Spinoza ici, toujours dans son Éthique et son livre majeur, « Quand les hommes vivent sous la conduite de la raison, c'est alors qu'ils s'accordent le plus naturellement entre eux. Donc, quand chacun cherche le plus ce qui lui est utile en propre, c'est alors que les hommes sont les plus utiles les uns aux autres. Autrement dit, la bonne entente va venir de la raison. Or, cette raison-là, c'est une puissance, c'est un connatus, c'est une puissance d'agir, c'est un désir. Alors, c'est la raison qui construit les civilisations. Être civilisé, dans le fond, c'est d'être raisonnable, c'est de viser la juste mesure. Alors, la simplicité volontaire, c'est un appel à cette civilisation-là. C'est un appel à cette sagesse de la mesure. En tant que citoyen simplicitaire, en tant que citoyen libertaire, en tant que citoyen lucide, je rêve, moi, que mes compatriotes reviennent à un comportement volontairement plus simple, plus libre, plus autonome, qui reviennent à un désir qui vise la réalisation de soi, que la mesure et la justice soient toujours mieux vécues comme lien social.
Jacques, on approche de la fin de l'émission. Je vais rappeler à nos auditeurs, pour ceux qui voudraient approfondir sur le sujet dont il était question aujourd'hui, « Cultiver le désir », c'est le livre de Frédéric Lenoir, « Cultiver le désir et vivre aux éclats » aux éditions Flammarion. Ça vient juste de sortir, c'est en librairie actuellement. Alors, je te remercie, Jacques, encore une fois pour tes éclaircissements.
Je t'en prie.
Ça complétait notre série de lectures sur Frédéric Lenoir. Alors, on va se dire dans quelques semaines.
Et, oui.
Bonne journée à tous.
À vous aussi.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Aujourd'hui, Café Sobab propose une publicité sans musique. On fait une publicité a cappella. Ben oui, c'est parce qu'on veut présenter un assemblage de café spécial, original et très en demande. Un mélange composé de 8 types de grains de café. On l'appelle l'a cappella. Avec ça, pas besoin de musique pour démarrer la journée du bon pied. Comment y goûter? Café Sobab, 566 3e Avenue, Limoilou. CaféSobab.com.
Mondes musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Mondes musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Et savez-vous quelle coupe de cheveux on fait aujourd'hui?
Champignon. Puis vous, là, savez-vous à quel crédit d'impôt j'ai droit cette année?
Je sais pas trop pour vos impôts, mais êtes-vous sûr pour la coupe champignon?
Pour vos questions sur les impôts, à Revenu Québec, on est les mieux placés pour vous répondre. Visitez le site internet justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec.
Bonjour, ici Martin Bertrand. Voici votre bulletin du vendredi 3 mars 2023. Un sondage commandé par le Conseil des quartiers de Montcalm révèle que c'est à plus de 93,3% que la population du quartier et des environs est favorable à la piétonnisation en été et fin de semaine d'une portion de l'avenue quartier. Quelques aspects en défaveur d'une avenue quartier piétonne ont par ailleurs été soulevés, notamment le manque d'espace de stationnement et l'accessibilité au commerce. À la lumière de ces résultats, le conseil de quartier conclut que la piétonnisation est souhaitée par celles et ceux qui fréquentent les rues quartier, mais qu'elle doit se réaliser en concertation avec les commerces afin de tenir compte de leurs préoccupations. À compter de midi aujourd'hui, et ce jusqu'au 25 mars, le lieu, centre en art actuel situé au 345 rue du Pont, présente Saturation invisible, dessin, vidéo, installation et performance d'une femme éléphant de l'artiste Elena Martin-Franco. Le lieu, centre en art actuel,